7h, 9h, la matinale de Nova. Pour que tu rêves encore, 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 encore. Nova.
On va faire un voyage en car. Le car finit accidenté parce que le chauffeur est ivre. Je me retrouve à rencontrer la femme du chauffeur qui nous a plantés juste avant. Et qui se trouvait une jolie femme, pleine de désillusions parce qu'elle a un mari alcoolique et chauffeur de car. Et on discute beaucoup et on finit par tomber d'accord tous les deux que c'est mieux qu'on en reste là. Elle et moi.
Nova.
On se plaît, mais en fait, non. Elle a un mari alcoolique et moi, j'ai un rêve à finir, quelque chose comme ça.
Pour que tu rêves encore.
Combien d'hommes ont rêvé de piquer la femme du chauffeur de car ? Combien d'hommes ont fait vrombir leur moteur de plaisir en imaginant la femme du chauffeur avec tous les feux au vert ? Vous avez déjà imaginé de draguer la femme du chauffeur de car, Queenie ?
Non, parce que j'ai déjà un car, moi.
Ah, vous avez un car vous-même ?
Oui, je
vous dites car ou bus,
car.
D'ailleurs ?
Je dis autocar.
Ah, c'est vraiment vous êtes très performant.
Merci.
Bonjour à tous les chauffeurs, les conducteurs et même les pilotes. Bonjour au service de sécurité israélien qui, 24 ans après le coup de colère de Jacques Chirac à Jérusalem, ont subi les foudres de Emmanuel Macron hier à Jérusalem. En 1996, Jacques Chirac s'était énervé contre des policiers qui empêchaient les passants de lui serrer la main et bousculaient les journalistes. Une séquence restée célèbre.
What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want?
Dans un mimétisme étrange, Emmanuel Macron s'en est pris hier à des policiers, leur reprochant d'entrer armés dans le domaine national de Sainte-Anne, une enclave française à Jérusalem.
Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke nobody, ok?
Un grand bonjour également à tous les professeurs d'anglais qui constatent que l'accent des présidents français reste excellent. Bonjour aux avocats en grève pour la troisième semaine contre la réforme des retraites. J'adresse un salut spécial aux avocats de Seine-Saint-Denis qui ont fait un AK hier. Ta réforme, non, c'est étonnant, hein. S'inspirant des All Blacks en robe noire, trait de peinture sur le visage, une cinquantaine d'avocats ont fait donc un AK hier sur le parvis du tribunal de Bobigny. On peut appeler ça un avo-AK, je pense.
Oui.
Bonjour à Gloria. La tempête qui apporte avec elle des crues et des pluies diluviennes dans le sud de la France. L'Aude et les Pyrénées-Orientales sont en vigilance rouge pour les crues. Une Gloria qu'on sera content de voir partir. Bonjour aussi à Walid Sekaki qui lui est déjà parti sans prévenir, évadé le 19 décembre dernier d'une prison belge en escaladant le mur d'enceinte haut de 6 mètres. Il est actuellement en cavale et vient d'envoyer une carte postale aux trois directeurs de sa prison, leur adressant ses salutations de Thaïlande. Il manque pas d'humour. Et puis, au revoir Terry Jones, membre éminent des Monty Pythons, mort mardi à 77 ans. Il avait réalisé les films de la troupe, Sacré Graal, La vie de Brian, Le sens de la vie. Tous ces films qui m'ont fait pleurer de rire, sans compter les sketchs sur la BBC. Un salut éternel donc à nos maîtres en humour.
The Knights who say nay demand a sacrifice.
Knights of nay, we are but simple travelers who seek the enchanter who lives beyond these woods.
Nay.
Nova.
7h25, le procès de l'ancien producteur Harvey Weinstein a débuté hier à New York. Il doit répondre à des accusations d'agression sexuelle et de viol. Plus de 80, c'est bien ça.
Tout à fait.
Oh là là. 80 femmes, parmi lesquelles des vedettes comme Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ou Léa Seydoux l'ont accusé de harcèlement d'agression sexuelle, parfois lors de grands festivals de cinéma comme à Cannes, Sundance ou Toronto. Mais la plupart des faits sont anciens et prescrits, rappelle Le Monde. C'est en tout cas un procès emblématique de l'ère MeToo. Queenie, en tant que DJ,
oui,
DJ de 7h25, vous lui
fait.
Avez trouvé un petit morceau qui lui va comme un gant.
Alors, c'est une chanson qui est née dans la rue et plus qu'une chanson, c'est un hymne féministe qui est né au Chili. C'est une chanson qui dénonce la société patriarcale, c'est-à-dire une société dirigée par les hommes, pour les hommes et qui protège les hommes. Cet hymne dit « Le violeur, c'est toi ». Il a été créé par le collectif Lastesis et il est chanté par des femmes, les yeux bandés, pendant les manifestations. Il est accompagné d'une chorégraphie et cet hymne, il a été repris à l'international. Il a été repris en Tunisie, en France et hier à New York devant le procès d'Harvey Weinstein.
And it's not my fault not where I was, not how I dressed, and the rapist was you.
and the rapist was you, c'est la version anglaise. Revenons à la version originale en espagnol et ajoutons un riddim, c'est une instru jamaïcaine. Ce riddim, il est bien connu, c'est Coolie Dance. Et alors quand on met les voix sur une instru qui n'est pas la bonne, ça s'appelle un bootleg. Et c'est El Perro, un DJ qui l'a fait. Il a mis les voix donc de El Violador Estu et sur ce riddim. Et c'est pas le seul remix hein, de l'hymne, mais celui-là il marche hyper bien. Et moi je suis contente qu'on puisse nous, les Zouz, se réapproprier ce morceau et même danser dessus à 7h20 ou en soirée et que les hommes vous l'entendiez partout tout le temps. Désolé Armel. Hein. C'est donc le morceau El Violador Estu qu'on dédie tout particulièrement à Harvey Weinstein sur Nova.
Diriez-vous de jouer un petit jeu de société? On pourrait faire un Scrabble.
Oui, ou un Domingo.
Ou alors on peut demander à des auditeurs de jouer avec nous. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Comment allez-vous? Alors c'était quoi ce bip? C'était un peu agressif.
Je ne sais pas.
Non, moi non plus. Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Vous êtes où exactement?
Sur Bordeaux.
Sur Bordeaux, vous êtes dessus?
Enfin. Oui, depuis Bordeaux, au-dessus de Bordeaux.
Vous avez bien la chance. Vers Saint-Michel, les Capus.
Ça y est, elle commence à nous faire croire qu'elle connaît bien Bordeaux.
Non, mais c'est un tout petit bled à côté de Bordeaux, Castres-Gironde, je sais pas si...
Ah, voilà, on aime bien la précision quand même.
Alors, nous avons d'un côté Hélène sur Bordeaux. Ludovic, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Eh ben, ça va, en pleine forme ce matin.
Prouvez-le.
Wouhou!
Eh ben, alors, il est en pleine forme. Vous appelez d'où, Ludovic?
J'appelle de Lyon, excusez-moi, là, c'est le débordement de la pleine forme. Là. J'appelle de Lyon. Oui.
Vous êtes sur Lyon?
Oui, c'est ça.
Alors, on va jouer un petit jeu très simple. Il s'agit de deviner le titre d'un film très connu. L'idée n'étant pas de donner des noms de films au hasard, mais de vous aider d'un indice. Cet indice, c'est une dame de BFM TV qui va nous le donner. C'est comme ça, c'est la règle du jeu, et tant pis si ça a été décidé sous champi. C'est une dame de BFM TV qui nous aide. Alors, Hélène, c'est vous qui avez parlé en premier, donc c'est vous qui avez la main, c'est vous qui allez répondre en premier. C'est parti, on écoute la dame de BFM TV.
Au volant de ce véhicule, deux braqueurs fichés par les services de Los Angeles. Pourtant, malgré ce pédigré, écoutez ces enregistrements, les deux individus discutent de hamburgers.
Hélène, à l'aide de cet indice, est-ce que vous pouvez nous dire de quel film il s'agit?
Je vois qui c'est là.
Mais moi, je vois pas qui c'est.
Hélène, vous ne voyez pas deux malfrats au volant à Los Angeles qui discutent de hamburgers?
Mais je dois connaître, mais non, je vois pas. Je laisse la main à
Ludovic.
À Ludovic.
Je dirais la musique, c'est de Tarantino, et je dirais Pulp Fiction.
Mais c'est gagné! Ludovic de Lyon.
Mais
Ludovic.
Il avait dit qu'il était chaud, il avait fait wouhou.
Vous avez fait wouhou au début de la. Est-ce que vous travaillez vous-même dans le cinéma? Vous avez travaillé sur ce film?
Alors. Non, pas du tout. C'est vrai que j'ai repris quelques répliques de Samuel Jackson. Mm. Et effectivement, j'ai fait quelques comédies dans les courts-métrages. Parce que sur Lyon, il y a beaucoup de petits courts-métrages étudiants. Et voilà. Donc, je suis imprégné du cinéma.
Et surtout, les Frères Lumière, ils étaient de Lyon, non?
Ah ben voilà.
Le cinéma est à Lyon, voilà, c'est pour ça.
Exactement.
Et voilà.
Pulp Fiction, donc voilà. Avec... faut le revoir ce film dans la journée, c'est un conseil que je donne aux auditeurs, n'allez pas travailler, regardez Pulp Fiction. Qu'est-ce que gagne Ludovic alors?
Les deux places pour la soirée de la famille Maraboutage, Makeda de Marseille, c'est ce week-end.
Ça vous oblige à aller à Marseille en revanche.
Exactement. Bah, merci beaucoup, ça me fait plaisir.
Et bah, merci à vous.
Bonne journée à tous les deux.
Bisous.
8h05, vous avez peut-être vu ce gros titre il y a quelques jours. L'ONU propose de protéger 30% de la planète d'ici 2030 pour lutter contre la dégradation accélérée de la nature. La Convention pour la diversité biologique de l'ONU a dévoilé un texte, une première ébauche de résolution qui sera négociée lors de la COP15, Convention de l'ONU pour la biodiversité, en Chine, en octobre prochain. Ça fait beaucoup de mots compliqués là. On va revenir sur tout ça dans les prochaines minutes avec notre invitée Shamila Nahir-Bedwell. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Votre écosystème à vous, c'est l'UNESCO. Vous êtes scientifique d'abord et puis sous-directrice générale pour les sciences exactes et naturelles de l'UNESCO. Donc scientifique dans un bureau en fait, c'est ça?
Oui, en ce moment.
Vous avez bien dormi?
Un peu.
Un petit peu dormi.
Il est tôt, hein. Oui.
Alors, quel est l'état de la biodiversité aujourd'hui sur Terre? Parce qu'on parle d'érosion, certains parlent d'effondrement. Concrètement, quel est le tableau aujourd'hui?
Je pense qu'en ce moment, comme tout le monde a constaté, la biodiversité constitue les tissus vivants de notre planète. Et au niveau scientifique, nous parlons plutôt d'érosion de la biodiversité qui effectivement s'accélère. Comme l'a bien démontré le rapport mondial sur la biodiversité qui a été lancé à l'UNESCO en mois de mai 2019. Et des points de basculement, comme on dit en anglais, tipping points, ont été identifiés. Au-delà duquel, non seulement nous ne savons pas ce qui va se passer pour la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, mais nous savons qu'un retour en arrière ne sera plus possible. Quelques chiffres là-dessus. Ce que nous apprend le rapport mondial, c'est que le rythme de changement global, souvenez-nous dans la nature au cours de la dernière 50 années, est inédite dans l'histoire de l'humanité. Mmh. Au total, 75% de la surface terrestre est altérée.
75% de la surface terrestre altérée. Bah, tu dis c'est énorme, mais ça fait quand même 25% qui sont préservés.
Attends, on peut voir le... Oui, c'est vrai.
Quelles sont les espèces menacées? On ne peut pas les lister, évidemment, mais est-ce qu'on a des chiffres beaucoup d'espèces animales, végétales sont menacées aujourd'hui? Et quels sont les chiffres dont on dispose?
Bah, toujours après ce rapport mondial de biodiversité, en moyenne, 25% des espèces appartenant au groupe différent des animaux et des végétaux évalués en tant que grande valeur pour le système service d'écosystème sont menacées, ce qui suggère qu'environ 1 million d'espèces sont déjà menacées d'extinction. Beaucoup dans des décennies à venir, à moins que des mesures ne soient prises pour réduire l'intensité de facteurs à l'origine de la perte de biodiversité. On a parlé hier de les descentes des abeilles qui sont tellement importantes parce que s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de nourriture sur terre, il n'y a pas de vie sur terre. Donc c'est une des espèces aussi qui sont menacées.
Nova, pour que tu rêves encore.
Voilà, voilà. 8h13, l'ONU propose de protéger 30% de la planète d'ici 2030 pour lutter contre la dégradation accélérée de la nature et tenter d'enrayer la perte de biodiversité et la disparition des petits oiseaux bleus. Shamila Nahir-Bedwell, sous-directrice générale de l'UNESCO, est avec nous ce matin. Alors, pour résoudre un problème, il faut en connaître les causes déjà. Est-ce qu'on connaît avec précision aujourd'hui les causes de l'effondrement de la biodiversité? Shamila.
Merci. Donc, nous pensons qu'il y a différentes causes de l'effondrement de la biodiversité liées au changement climatique, mode de vie, production, consommation, et peut-être retourner en arrière et revaloriser ce que la nature nous offre. Et c'est très important de savoir comment vivre en harmonie avec la nature et réconciliation entre les êtres humains et la nature. Mmh. Et c'est exactement le rôle de l'UNESCO depuis 50 ans, c'est de promouvoir quand même particulièrement à travers de tous ces programmes intergouvernementaux, internationaux, sur les sciences, culture, éducation et communication, les réconciliations entre hommes et nature.
Parce que si on combine l'agriculture, la déforestation, la pêche, la chasse, la pollution, c'est tout le monde humain en fait. Est-ce qu'on va pouvoir changer autant d'habitudes tellement ancrées en si peu de temps?
Le message est clair, on ne peut plus continuer comme avant. Et oui, c'est possible de changer et de transformer nos habitudes si chacun prend ses responsabilités. Quel État met en œuvre les engagements internationaux, comme la mise en œuvre de l'agenda 2030 et particulièrement l'accord de Paris, de maintenir le réchauffement à 1,5 degré, car les deux enjeux de changement climatique et biodiversité sont intriqués et interdépendants. On ne résout pas l'un sans l'autre. Et les solutions existent. L'UNESCO observe dans tous ses programmes et ses réseaux uniques réserves de biosphère dans 124 pays et 701 réserves de biosphère de l'UNESCO, et aussi à travers de tous les autres sites de l'UNESCO protégés, les patrimoines mondiaux et les sites naturels, héritage où on protège aussi l'héritage culturel et surtout le savoir-faire autochtone. C'est possible de vivre en harmonie avec la nature et dans ces espèces, on voit les préservations, conservations, restaurations et aussi les transmissions de savoir-faire et vivre avec la nature.
Vous parlez de... J'ai perdu ma question.
Vivre en harmonie avec la nature.
Oui, vivre en harmonie. C'est ça. Oui, non, je repensais aux 30%, le projet de l'ONU, quoi. C'est-à-dire préserver 30% de la planète. Et qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre, puisque vous me dites que l'UNESCO a déjà ses propres zones préservées?
Voilà, en fait, c'est les sites désignés par l'UNESCO en tant que site avec une valeur inestimable. Les sites du géoparc, en ce qui concerne les héritages géologiques, les sites naturels, les sites de héritage culturel ou les sites qu'on appelle les réserves de biosphère. En fait, à travers de tous ces sites, si on regarde que les sites de réserve de biosphère, qui abritent 259 millions de personnes, donc les millions de peuples autochtones, ça représente environ 5% de terres émergentes. Donc si on prend en total, rien que les surfaces de zones centrales de ces réserves de biosphère, qui sont les sites strictement protégés, on arrive d'environ 1% de terres émergentes de la planète, c'est-à-dire 1,38 millions de kilomètres carrés. À travers de tous ces sites, dans différents pays, on peut constater que ces centres de sites protégés, strictement protégés, a déjà atteint 10%, qui était soulevé dans ce premier texte de Zero Draft qui vont être discutés tout au long de l'année 2020 pour arriver à une conclusion à la fin de l'année et à une décision prise par les États membres de Convention de biodiversité pour protéger les 30% et les 10% strictement protégés. Donc, on peut donner d'autres chiffres, par exemple, de Costa Rica à Haïti. Ils ont déjà les zones centrales qui dépassent les 10% de protection stricte inscrite provisoirement. Donc, l'objectif de 30%, si validé par les pays, inclut ces pourcentages de haies protégées, terrestres et marins. Et également, il y a d'autres modalités effectives de conserver la biodiversité en dehors de l'expérience de réserve de biosphère de l'UNESCO, qui sont d'approches de gestion intégrée et connectée des territoires à l'échelle du paysage.
Ça devient complexe, là.
Voilà. Donc, il faut aussi protéger non seulement les 30%, mais aussi les couloirs entre les différents écosystèmes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel l'UNESCO aussi plaidoie. C'est pas seulement les 30% du territoire. Et comment constater les critères utilisés pour définir ces 30% du territoire? Or que nous avons déjà les sites où les êtres humains vivent en harmonie avec la nature. Et c'est possible.
On voit déjà se dessiner les tractations là, pendant ces prochains mois. Et puis on voit surtout arriver la COP. Il y aura une COP donc, en octobre prochain en Chine sur cette question de la biodiversité. Ce qui fait toujours évidemment se poser des questions sur ces grands sommets négociés pendant des mois et des mois. Puis à la fin, des grandes conclusions sont tirées, des rapports, des ambitions. Et pas toujours respectées, comme on peut le voir en ce moment avec l'accord de Paris. Shamila Nahir-Bedouel, merci beaucoup d'être venu nous dire quelques mots ce matin à Radio Nova.
Merci.
Merci à vous.
On va vous laisser retourner vous coucher, si vous avez envie.
Merci beaucoup.
À 8h22, on retrouve Marie Transport qui se promène cette semaine avec l'écrivaine Constance Debré. Alors avant, Constance Debré était avocate, mariée, rangée, et puis elle a tout quitté. Elle l'a raconté dans un livre, Playboy. Son nouveau livre, Love Me Tender, se concentre sur sa vie après la perte de la garde de son fils. Dans ce quatrième épisode, l'écrivaine dit des choses interdites.
Vous allez où ?
Service d'accompagnement des personnalités au travail.
Je peux m'asseoir à côté de vous ?
Marie Transport, épisode 4.
Alors, on est en face, pas très loin de Port-Royal, là, non ?
Exactement.
Bravo. On va par là, on rentre dans le parc ? Ouais, j'ai l'impression, ouais. La pelouse est au repos, mais le parc est ouvert. Pour revenir à un truc dont on a parlé au tout début et où tu m'as dit non, c'est pas vraiment un livre de deuil. Ce que tu dis sur l'amour, sur la relation, ce que la narratrice dit sur la relation avec son fils qu'elle voit plus, c'est quand même dire des choses un peu interdites. Même le fait que tu dises parfois ça m'arrange en fait de pas avoir mon fils et de pouvoir vivre ma vie et de pouvoir m'explorer, d'avoir le temps, etc.
D'abord, il faut bien s'adapter
à la réalité.
À la réalité. Et que par ailleurs, oui, bah évidemment, tout le monde sait, je crois, ce que l'autre, quel qu'il soit, peut avoir à certains moments d'encombrant. Et je crois pas que ce soit une offense faite à qui on aime de dire ce sentiment que lui-même doit bien éprouver. Alors effectivement, il me semble que autour de la maternité, des mères, c'est quelque chose autour duquel il y a beaucoup de pudeur. Alors que, oui, des moments, on a envie de faire autre chose. Ce truc de sacrifice, non. Je pense qu'il y a derrière, mais je pense qu'on le sait, ce truc très construit de mère, quelque chose d'étouffant, ou quelque chose que les mères parfois peuvent s'approprier. Et ça peut aussi être le lieu de l'exercice d'un pouvoir malsain, hein, je pense. Mais enfin, on fait comme on peut avec ce truc.
D'ailleurs, tu te réappropries l'expérience, l'expression, on dit qu'il faut tuer le père, toi tu dis qu'il faut aussi tuer la mère.
Bah oui, il faut s'émanciper, et parfois l'autre, sa propre mère peut être un personnage très encombrant. Beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à se débarrasser de leur enfance. Hein.
Il y a un truc assez cool, c'est le rapport à l'âge quand même dans ton roman, parce que la narratrice a quoi, 46 ans, 47, elle en fait beaucoup moins. Tu dis être homo, ça rajeunit forcément. Pour les gens qui ont peur de vieillir, par exemple, je pense qu'il fait du bien ton livre.
Ah bah tant mieux. C'est un peu un truc à la blague, ce truc de homosexualité qui fait gagner 10 ans. Mais oui, je crois beaucoup. Que cette question de l'âge, en particulier pour les femmes, est beaucoup une construction des idées.
Tant qu'on tient debout.
Tant qu'on a pas mal et qu'on tient debout. Et oui, de fait, dans l'homosexualité féminine, en tout cas, il me semble que ces questions d'âge ont moins de poids, ouais.
Marie Transport, une série à retrouver en podcast sur nova.fr. La chronique textile.
Grosse actu pape avec d'abord la sortie du livre de Benoît XVI que vous avez lu peut-être.
J'ai chroniqué, j'ai fait des fiches.
Et puis ensuite la sortie de The New Pope, la suite de The Young Pope avec Jude Law et John Malkovich. Et dans cette nouvelle saison, alors il y a deux papes, un dans le coma et l'autre qui a pris sa place. Tous deux portent des costumes grandioses et ça vous a donné envie de parler un petit peu du look des papes ce matin.
Bah oui, Armel, dans la série, les tenues du pape sont un vrai enjeu, même si ça n'est pas toujours réaliste. Dans un épisode, par exemple, on voit Jude Law dans un magnifique et tout petit slip de bain speedo d'un blanc éclatant. Alors, peu de chance de voir un jour la même chose, je pense, sur le pape François. En tout cas, le personnage qu'incarne Jude Law, il se sert de ses attributs vestimentaires pour imposer son pouvoir. Il refuse, par exemple, de s'adresser aux cardinaux tant qu'il n'a pas reçu la tiare de Paul VI sur la tête. Cette tiare, elle a vraiment existé. C'est une sorte d'énorme œuf Kinder de 4,5 kg en argent massif.
Et c'est Paul VI qui a été le dernier à la porter.
Voilà, c'est le pape qui a lancé Vatican II, la grande réforme de l'Église, et qui a aussi fait réformer les habits liturgiques pour plus de simplicité. Car dans la vraie vie aussi, les papes font un usage très politique du vêtement. Les deux exemples récents le prouvent.
Alors parce que Benoît XVI et le pape François, eux, n'ont pas du tout le même style.
Et bah pas du tout. Avant de devenir pape, Benoît XVI, il se fout complètement de la mode. Il porte même un vieux pull moche sous sa robe de cardinal pendant le conclave qui va mener à son élection. Mais dès qu'il devient pape, il s'empresse de changer de tailleur et file chez Gamarelli, le fournisseur très haut de gamme des papes depuis 1798. Il ressort aussi la mosette, ce sorte de petit poncho rouge bordé d'hermine. Il y a d'ailleurs une pétition pour que le pape cesse de porter des fourrures, l'association de défense des animaux, expliquant que son manteau n'était plus en usage depuis Jean XXIII, c'est-à-dire depuis les années 50. Et c'est un peu une manie chez Benoît de ressortir des vieux trucs des placards. Il a porté la mitre lourdement brodée d'or de Pie IX, un pape du milieu du XIXe,
le camoro, une sorte de bonnet de Père Noël rouge avec de la fourrure blanche sur les bords, et même le galéro, un chapeau pontifical du XIVe siècle. Et ça traduit sans doute, en tout cas ça renforce l'image d'un homme très conservateur, voire même carrément rétrograde.
Alors que François, lui, fait tout différemment.
François, lui, n'a jamais mis la mosette. Il porte un anneau papal en argent doré, beaucoup moins bling que celui en or massif de son prédécesseur. Il a aussi gardé sa croix de quand il était évêque à Buenos Aires, en fer. Là encore, ça tranche avec les colliers en or que portaient Benoît XVI et les autres avant lui. Il a aussi gardé ses chaussures de ville noires pour être à l'aise, loin des chaussures rouges de Benoît XVI, si voyantes qu'on les avait prises pour des Prada.
François montre comme ça qu'il reste un homme simple, proche des croyants.
Simple, humble et puis moderne aussi. Ses fournisseurs parlent même d'un style qu'il aurait inventé, le papal athleisure. L'athleisure, en gros, c'est la tendance qui mêle style et confort. Adapté donc au souverain pontife, ce sont des coupes sobres dans des tissus confortables. François est dans l'air du temps, il veut installer l'image d'une église plus jeune, plus moderne, plus dynamique. C'est aussi la traduction d'un pape qu'on dit plus ouvert sur les questions, par exemple, de l'homosexualité ou du mariage des prêtres.
Donc, vous l'aimez votre pape François quand même. C'est lui qui gagne alors?
Eh bien, pas sûr. Pour certains croyants, le style trop simple du pape ne passe pas bien. Tous les symboles qui constituent normalement la tenue d'un pape et que François refuse, eh bien, ça affaiblit, selon eux, son statut et son pouvoir.
La guerre n'est donc pas finie entre deux visions de la papauté.
Et non, et le New Pope, comme le film Les Deux Papes, qui est sorti en novembre dernier, joue sur cet antagonisme, sur cette situation inédite qu'on connaît depuis 2013. Il y a deux papes, François, donc l'officiel, mais aussi Benoît XVI, qui a démissionné, mais qui est encore en vie et qu'on soupçonne d'avoir pas mal d'influence. On pourrait croire que les papes n'ont pas vraiment le temps de se soucier de cette question très temporelle qu'à la mode. Et pourtant, à travers les vêtements, ce sont bien deux visions de l'Église qui s'affrontent.
Merci beaucoup Yvonne Jacob pour cette chronique mode papale. Vous ne pensez pas qu'il porte la mosette en cachette? Peut-être François.
chez lui, dans ses appartements.
Exactement.
Il se regarde, il se kiffe.
Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Comment ça va?
Super, franchement je suis contente, je suis en ligne avec vous.
Oui, c'est vrai que c'est une journée qui commence bien. Nous aussi on est très heureux d'être en ligne avec vous. Vous avez déjà participé au quiz?
Non, c'est la première fois, j'y participe dans ma voiture mais jamais en vrai.
Vous vous êtes entraînée dans la voiture, c'est très important de s'entraîner. Vous êtes joueuse dans la vie?
Ah, une grande joueuse, je suis joueuse de poker, toujours, j'adore ça.
Vous avez perdu votre maison combien de fois?
Oh, 10 fois.
Ok, il est temps de se refaire ce matin grâce au quiz de Radio Nova et ses nombreux cadeaux. Le record est de 13 bonnes 13, réponses.
Ouais,
13.
13 ouais.
Alors attention.
Avec le ouais, je m'en rappelle. C'est un jeu.
Ah oui, vous êtes vraiment hyper
fidèle.
Ah ouais,
quoi. Je suis à fond.
Fond du quiz. Hein.
Alors tout commence par acte aujourd'hui.
Oh là là.
Mais si, acte, c'est facile, c'est joli. Acte comme
active.
Ouais. Activité.
Ah, il commence déjà.
Actinomètre aussi, ce fameux appareil qui sert à l'actinométrie. Alors c'est
oui,
pas dans le quiz.
Oui. Ouais. Ouais, bon, oui, bah, j'espère que ça sera pas comme ça. Hein, on est mal barré. Hein.
Alors, je vous rappelle que vous avez 45 secondes et qu'il faut donner le maximum de bonnes réponses. C'est parti. C'est le diminutif d'actualité.
Actuel.
C'est un mec. C'est
actu,
un mec.
Pardon.
C'est un mec qui joue dans un film.
Acteur.
C'est une meuf qui joue dans un film.
Actrice.
C'est un mec qui joue dans un film porno.
Acteur porno.
C'est ce que dit un réalisateur après moteur.
Action.
C'est l'assaut contre la faim.
Action contre la faim.
C'est l'assaut contre le sida.
Action contre le sida.
Non. C'est un magazine en papier, ancêtre de Nova.
Je passe.
C'est maintenant.
Actuellement.
C'est quelqu'un qui a des parts dans une entreprise.
Un actionnaire.
C'est quand t'es pas passif.
Actif.
C'est le yaourt actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur.
Actimel.
C'est un chapitre dans une pièce de théâtre.
Un acte.
Alors, eh bien, c'est pas mal du tout.
Un acte, on vous l'accorde, l'acte, il était sur le gong.
Oui, non, mais
c'est
passe.
Pas mal. Vous étiez très énergique, on a bien aimé. Donc, juste par contre, l'association contre le sida, donc c'est Act Up.
Ah ouais, pardon.
Bon, c'est pas grave, hein. Le magazine en papier, en fait, de Nova, il faut réviser, hein, c'est classique, hein, c'est actuel. Voilà. Et les yaourts actifs à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur, c'est Activia, c'est une pub gratos. Hein,
Activia, Actimel, c'est un peu pareil.
Vous avez fait 10 points. 10 points.
Ah, ça va, c'est bon.
Franchement, c'est super, hein. Bravo. Ouais, hein.
C'est plus qu'honorable, Aurélie. Bravo pour ce. Pourquoi vous riez?
Bah, parce que je suis contente.
Ah, voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Bon, bah, vous nous rappelez très bientôt?
Ah, bah, j'espère. Bonne continuation à vous. Et franchement, je changeais rien. Nova, c'est trop bien. Ça fait 20 ans que j'écoute. Et voilà, j'adore.
Bah, merci.
Peut-être changer de sous-vêtements, quand même. Non? Ok, merci.
Ça me regarde que moi.
Ça, c'est clair.
Ça que vous. Je ne prends plus rien, moi. Merci, Aurélie. À bientôt.
Merci, bonne journée.
Nova, pour que tu rêves encore.